Radio Apple Pie 6ème, bonsoir. Autour du ring ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Thierry et Kassem, ainsi que deux de leurs poulains, Karim et Jérémy, qui nous présenteront leur assaut, le ring de l'estuaire. Dans le coin à ma gauche, culotte violette, 30 kilos, la terreur des micros, on ne présente plus Juliette, 6 combats, 6 victoires par arrêt de l'arbitre. À ma droite, culotte noire, 12 kilos, Pascal, qui désormais viendra parfaire votre savoir, t'as d'un culte, je parle pour certains. Par de percutants crochets littéraires, au menu ce soir, polar repercuté et BD en direct. Voilà, en attendant le jet de l'éponge ou attaque. On attaque le round par Death in Vegas, ça s'appelle Aïcha.
Aïcha. We're only just met. And I think you ought to know. I'm a murderer. I have a portrait on my wall. He's a serial killer. I thought he wouldn't escape.
essentiellement de boxe éducative. Et surtout, nos invités sont là pour parler du ring de l'estuaire. Donc, je vous rappelle qu'on a Jérémy, Karim, Thierry et Kassem. Bonsoir.
Bonsoir.
Et alors, à l'origine, c'est un projet de Kassem, Kassem Arahal, qui a donc créé ce club il y a quelques années.
En 87.
Tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ça?
C'est la suite de mon petit passage en amateur. Au bout de quelques années, comme j'ai commencé assez tard et que les résultats ne suivaient pas, bon, je me suis arrêté à 30 ans. Hein, et ensuite, j'ai passé mon brevet d'État. Et à la suite de l'obtention de mon brevet d'État, j'avais dans l'idée de un jour monter une structure avec des amis passionnés, forcément, dans un quartier aussi qui me passionne, parce que c'est pas le quartier où j'ai vécu, où je me suis entraîné. Donc je voulais absolument aussi que ça se passe dans ce quartier-là, hein, c'est-à-dire à Coquerolles, sur les plateaux du Havre. Et après l'obtention de mon brevet d'État, avec quelques amis, on s'est lancé dans ce projet-là. Et on a monté le ring de l'estuaire.
Et en fait, quand tu l'as monté, c'était pour faire de la boxe au départ, enfin pour monter un club de boxe, ou déjà tu avais ce projet de boxe éducatif?
Au départ, notre projet principal, c'était de faire de l'éducation sportive. Hein. Bon, comme notre spécialité à moi, surtout ma spécialité, c'était la boxe, donc on s'est forcément dirigé vers la boxe anglaise. Et j'en ai parlé à quelques amis hein, qui m'avaient suivi lorsque je boxais, et on est tombé d'accord sur des objectifs très précis. Hein. On voulait faire de l'éducation sportive, de la boxe éducative, de la boxe amateur, de la boxe loisir et de la boxe professionnelle. Hein. Vu que le fait que j'ai un brevet d'État me permet aussi d'avoir des professionnels, sous contrat.
Cette histoire de brevet d'État, on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est ce qui permet d'obtenir un agrément du ministère?
Il est plus facile d'avoir un agrément parce que en France, on reconnaît plus facilement, c'est un diplôme qui est reconnu, c'est une certaine compétence. Donc à partir de là, les agréments sont plus faciles à avoir, les subventions aussi, normalement, hein, sont plus faciles à avoir. Et aussi, surtout, ça sécurise les parents.
C'est logique. En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet qui concerne le ring de l'estuaire, peut-être qu'on pourrait parler, parce que certains auditeurs seront peut-être surpris par rapport à la radio en général, où on a eu toutes sortes d'invités. Bon, ça a pu être des chanteurs, des sculpteurs, on avait en projet d'avoir aussi des militants écologistes, etc. Peut-être certains se demandent, tiens, mais pourquoi de la boxe?
On appelle bien ça le noble art.
Voilà. Donc ça peut être de l'art d'une chose. Et d'autre part, est-ce que ça correspond à, justement, tu parlais d'éducation sportive, à une manière d'être plus qu'à du combat, de la violence? On y viendra peut-être plus après dans le débat, mais je crois que c'est bien d'en parler tout de suite parce que pas mal de gens peuvent se poser des questions par rapport à ça.
Bien sûr, par rapport à la violence, il est certain que de se taper dessus, hein, on ne peut pas dire que ce soit pas violent, mais on peut se demander, poser la question, qu'est-ce que c'est que la violence, hein? On dit bien que la télé est violente, hein, pourtant on prend pas de coups quand on la regarde. Pourtant tout le monde dit qu'elle est violente.
Moi je pense qu'on prend beaucoup de coups en regardant la télé, mais pas encore autre chose.
Mais c'est pas les mêmes coups. Ouais. C'est comme dans une relation amoureuse, hein, on dit jamais que c'est violent. Alors qu'on sait tous très bien, avec l'expérience qu'on en a, que ça peut être violent.
Ça peut même être très violent. Regarde Manu, il a Manu a souffert pendant 30 ans, on voit le résultat maintenant.
Non, mais c'est pour ça, la violence viendra par la suite.
On peut pas parler de violence pour la boxe, parce qu'à partir du moment où deux personnes se sont bien mises d'accord, suivant certaines règles, pour se taper dessus.
Comment ça se taper dessus? Attends, il y a quand même une technique, il y a quand même. Hein. Tu parlais de noble art tout à l'heure, donc ça se résume peut-être pas.
Mais le but quand même, en boxe professionnelle, le but c'est de gagner le plus rapidement possible. Mmh. Hein, donc d'abréger le plus vite le combat.
Oui, mais je veux dire, c'est pas la finalité de la boxe, on est d'accord. La finalité, c'est quoi?
La finalité, la finalité, de toute façon, c'est ça, c'est de gagner.
D'accord, compétition, d'accord. Okay.
Non, pour la compétition, c'est ça. Mmh. Pour quelqu'un qui vient faire du loisir, c'est pour s'épanouir.
D'accord. Hein,
c'est complètement différent. C'est pour avoir une belle force physique, pour aussi pratiquer quelque chose où on peut se remettre en question face à un certain danger.
Tu crois quoi?
Pour réagir vis-à-vis de ça.
Et tu penses qu'on peut s'épanouir en se prenant des coups dans la tronche ou...
On n'est pas obligé de les prendre. Hein. Quand on s'entraîne, si on n'est pas professionnel, si on ne fait pas de compétition, on n'est pas obligé de se taper dessus. On peut se toucher. D'accord. C'est pas pareil, se frapper, se toucher.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est ça, le but du jeu dans un combat, notamment en boxe éducative, si j'ai bien compris, c'est plus de maîtriser les gestes et de...
Maîtriser la technique afin de toucher sans mettre en danger son adversaire. Il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité. Les coups ne sont pas portés. Les coups, on ne parle pas de coups. On parle de touche, on ne parle pas de combat, on parle d'assaut. C'est de toucher son adversaire le plus possible sans intention de le mettre hors combat.
Ouais, tu parlais d'agressivité, tu es bien obligé d'avoir une certaine agressivité. Je veux dire, le type qui rentre sur un ring, il doit quand même avoir la niaque, il doit quand même avoir le... Je veux dire, on va pas au charbon sans agressivité ou sans...
Oui.
Tu vois ce que je veux dire sans... Oui. Il faut quand même motivé par
les situations professionnelles. C'est différent de ce que nous pratiquons.
D'accord, d'accord.
Donc, on peut canaliser le débat sur ce qu'on fait d'éducatif et puis parler de la professionnelle, parce que le casson et le catamaran, les deux. Mais pas, on ne peut pas mélanger les deux.
Il y a une distinction
entre ceux qui font ça et ceux qui font ça.
En fait, est-ce qu'on peut dire tout simplement...
Un petit point, juste au niveau de la date, tu as dit 87, 97.
Au 97,
parce que 87, il n'y avait pas 30 ans.
Donc, vous allez d'avoir.
Non, juste pour dire au sens de l'éducation sportive, c'est vrai que bon, la boxe a plus une image effectivement de combat forcément, mais si ça se trouve, ce que vous voulez dire, ça rejoint toute forme d'éducation sportive, parce que j'imagine que dans le football, comme dans le basket, comme dans...
Voilà, enfin, la coordination, l'équilibre, la maîtrise de l'espace.
Et vous, enfin, je sais pas, dans la documentation que vous aviez, ça parle pas mal de rapport avec les arts martiaux. Ça veut dire que c'est plus un travail sur soi. Parce que les arts martiaux, c'est souvent considéré comme un...
Et parce que, non, parce que les arts martiaux, pour les Occidentaux, ça, leur, ça les a toujours fascinés. Ça vient de loin, ça vient d'une autre culture, c'est un petit peu mystérieux.
Il y a tout un folklore aussi à côté. Qui
voilà, ça a charmé l'Occident. Hein. Mais bon, la différence entre les arts martiaux et la boxe, c'est que la boxe, ça a toujours été un sport, au départ, hein, de son histoire, un sport de compétition. Alors que les arts martiaux ne sont pas pour la compétition, c'est pour se défendre. C'est complètement différent. Nous, on a des règles, il y a des parties du corps qu'on n'a pas le droit de toucher, on a le droit de se toucher qu'avec les poings, on n'a pas le droit de se toucher avec les jambes, on n'a pas le droit de taper en dessous de la ceinture, on n'a pas le droit de taper sur son adversaire une fois qu'il a le dos tourné.
C'est un sport. Ce qui semble logique. Et en ce qui concerne les jeunes, il n'y a pas de KO, c'est ça?
Non.
C'est la grosse différence, je crois.
En boxe éducative. En boxe amateur, déjà, en boxe amateur, on a le droit au KO.
Et qu'est-ce que tu penses? Tu viens de parler il y a deux secondes de boxe. Enfin, la boxe anglaise, on est en train de ça, tout le monde l'aura compris, on parle de boxe anglaise, mais de tout ce qui est dérivé, tout ce qui est boxe, je veux dire les boxes, la boxe américaine où on peut servir des pieds. Tu...
Ben, j'ai pratiqué.
Tu en as fait?
D'accord. Oui, j'étais au niveau national pendant des années.
Et tu as arrêté sciemment ou...
Non, je faisais les deux en même temps, je faisais plusieurs boxes en même temps.
Mais toi, tu as percé dans quel style de boxe, toi, personnellement?
Ben, dans tout.
Dans tout?
Oui, mais percer, ça dépend ce qu'on appelle percer. Hein. Ben, quand on arrive au niveau national, on n'est pas au haut niveau. Hein. Le haut niveau, c'est international.
Et qu'est-ce qui t'a bridé? Qu'est-ce qui t'a empêché d'arriver au niveau international?
Ben, alors, j'ai...
D'accord.
J'ai jamais commencé tard.
D'accord, t'as commencé trop tard.
22 ans.
Et c'est trop tard.
Oui, oui, puis après, ensuite, il y a les blessures, il y a aussi tout votre entourage hein, qui vous permet de progresser ou pas.
D'accord. On va peut-être enchaîner sur...
Little Bob Story.
Ça serait pas mal quand même.
En plus, c'est une bonne idée parce que le titre, c'est We All Have a Dream. Et ça nous permettra de revenir sur le projet de Kassem et Thierry.
À tout de suite.
Time for justice, time of solidarity. It is time for truth, the world is full of refugees. Freedom is a privilege, no one rights for free.
We are living now in a state of emergency. He's an owner who's never, never satisfied. Fear keeps you angry, deaf, dumb, and blind. The world is crying now and giving up hope. Politician diplomacy ain't nothing but a joke.
Comme l'a judicieusement fait remarquer Loïc, un morceau qui s'appelle On a tous un rêve. Ben, je laisse aux autres le soin de poursuivre là-dessus.
Eh bien, oui, on va revenir à Kassem et Thierry. On aurait aimé connaître, enfin, aimé savoir dans quelles conditions vous avez démarré, parce que je crois savoir que ça n'a pas été franchement facile.
Ben non, c'était pas facile, parce qu'on n'avait pas un sou. Alors, on avait beaucoup de monde qui est venu le premier jour, et pas de matériel. Rien du tout, pas de gants, pas de sac, absolument rien. Donc pendant 3 mois, avec tous les adhérents, ben, on faisait de la boxe, mais sans gants, sans sac, avec des cordes qu'on avait confectionnées, des bouts de cordes qu'on avait coupées. Et on a attendu 3 mois avant d'avoir les premiers fruits pécuniers, disons, hein, grâce aux cotisations, on a pu acheter 10 paires de gants. Alors, on était contents.
Mais ça se passait où alors?
Ça se passait juste au-dessus d'une piscine. Alors, c'était une salle insalubre, hein, avec une température d'au moins 35 degrés pendant l'entraînement, tout le monde avait chaud, hein. On n'avait aucun problème de poids à cette époque-là, c'est hein, mais c'est pas Karim, hein. Parce qu'on peut demander à Karim, c'est un spécialiste des problèmes de poids.
Un petit peu quand même.
Il a fait les efforts, il a fait les progrès. Wow. Mais à cette époque-là, tu te rappelles, hein, il faisait très chaud dans la salle, on buvait beaucoup d'eau, et on a commencé, c'était vraiment avec très peu de moyens. Et heureusement qu'à cette époque-là, la Fédération Française de Boxe a permis à certains clubs, tous les nouveaux clubs, de pouvoir acquérir du matériel qui était mis à la disposition, qui était donné au club par la Fédération Française de Boxe. C'était un kit qui comprenait un ring, des cordes, des sacs et des gants. Il y en avait pour 25 000 francs, pour tout nouveau club qui était créé.
Et au bout de combien de temps vous avez obtenu ce soutien ?
Au bout d'un an.
D'accord, donc vous avez galéré pendant un an quand même ?
Pendant un an.
D'accord.
Et de toute façon, le problème de la salle était permanent, vu que déjà c'était la salle où je me suis entraîné moi. Donc c'était une salle qui était parfaite pour la boxe, hein, avec des douches communes avec la piscine, des allées et venues, on n'avait pas le droit de se mettre nu sous les douches.
Beaucoup de promiscuité.
Voilà.
Et partagé avec un autre club. Donc.
Et partagé avec un autre club de boxe.
D'accord, d'accord. Donc faut bien avoir faim.
Ouais, ouais, c'était très difficile.
Mais c'est ce qu'il faut, c'est pas le nerf de la guerre quand on est boxeur. Faut pas avoir faim, faut pas être.
Mais de toute façon, ça nous a motivés. Hein, et aussitôt qu'on a entendu parler de certaines réunions de quartier qui se faisaient, où il y avait certains projets qui se montaient, on a commencé à aller à ces réunions de quartier. Et on a su qu'il y avait un nouveau projet innovant, hein, qui allait se dérouler à la salle Robespierre. C'est-à-dire, c'était une salle de sport qui n'était plus utilisée depuis des années, qui était vandalisée tous les jours, hein, qui était porte cassée, tout était cassé à l'intérieur. Et cette salle de sport appartenait au service des sports de la ville du Havre. Et le service des sports de la ville du Havre a donné cette salle à la politique de la ville, qui, grâce à Monsieur Claudius Johnson, a monté le projet justement d'une salle ouverte, c'est-à-dire avec une partie qui était réservée à la vie associative, hein, avec un bar associatif sans alcool, avec une grande salle, vaut mieux sans alcool sur les parties. C'est pas la même ambiance. Et une salle qui était réservée pour les cours, pour les rencontres entre les gens, pour la vie associative, avec les devoirs et les cours du soir, etc. Juste à côté, il y avait une salle qui était prévue pour la gymnastique, pour les arts martiaux, avec une petite salle de musculation. Et derrière, il y avait justement un projet pour une salle de sport de combat. Et on convenait très bien au projet. Donc c'est pour ça qu'on a été, choisi dans ce projet.
D'accord, mais j'imagine que vous avez tapé aux portes des institutions en...
Oui, mais à cette époque-là, comme elles étaient demandeuses, les institutions, donc c'est facile. Quand elles sont demandeuses, c'est toujours facile. Bah, vous les aidez.
Ouais.
Ça arrivait pile poil.
Donc là, grosso modo, on est en 98, 99, et vous arrivez à avoir quand même à peu près la salle que vous voulez, un minimum de matériel. Et
par rapport au matériel, j'y arrive pas ça parce que nous, on a porté tout nos matériels qui représentaient quand même 45 000 francs, et la ville a quand même mis 40 000 francs de matériel.
Donc vous étiez équipé à ce moment-là.
On était équipé, on était prêt.
Et par rapport à comment vous avez fait savoir donc que ça existait, comment les, est-ce qu'il y a eu un afflux de gens, est-ce qu'il y a eu une curiosité tout de suite, tout ça a pris du temps.
Bah c'est très difficile parce que bon, même si on est dans un quartier, hein, la boxe, il faut savoir que ça, le public de la boxe a énormément changé sur les quartiers. Enfin, pour ce qui concerne le Havre, hein, moi je dirais pas sur toute la France, hein, j'ai pas assez de renseignements pour savoir comment ça se passe autre part. Mais moi je sais que on a plus la même. Moi quand j'ai commencé à cette époque-là, il y avait de tout dans une salle de boxe. Hein, il y avait des chômeurs, il y avait des anciens délinquants, il y avait toutes sortes de publics. Hein. C'est-à-dire que maintenant, quand même, le public a beaucoup changé. Hein, ce sont quand même que des garçons, soit qui travaillent, qui n'ont pas vraiment de problème. Hein. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas du tout de problème, mais en majorité qui n'ont pas de problème, ils sont tous à l'école. Ils travaillent bien à l'école.
C'est un truc dont on a parlé l'autre jour, c'est-à-dire que c'est terminé le mythe du working class hero, le prolo qui en a marre et qui met toute son énergie dans les combats pour s'en sortir. Et voilà.
Mais je crois aussi que ça existe. Hein, j'ai des exemples d'amis qui font des interventions dans les prisons et qui ont des boxeurs qui ont participé au championnat de France alors qu'ils étaient en prison et qu'il y avait une permission de sortir pour pouvoir participer au championnat. Ça existe. Mais à chaque fois, on se focalise sur l'exception.
Ouais.
On oublie de regarder le reste et on se focalise sur l'exception parce que on a l'impression que peut-être que ça les a sauvés, mais peut-être s'ils avaient fait de la peinture, ça les aurait sauvés aussi. Hein. C'est pas simplement le sport et la boxe. Hein. La boxe, elle n'est pas destinée pour ces gens-là. Elle est destinée pour tout le monde. Hein. Celui-là qui a envie de pratiquer, qui est intéressé.
Ok, donc maintenant votre club commence à s'asseoir, avoir une certaine renommée. Et au niveau subvention, j'imagine que c'est mieux. Ça tombe un petit peu plus qu'avant.
Non,
c'est encore un peu la galère.
Pas du tout. 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 Pas du
Pour remettre dans le contexte, parce que ce que tu as bien de dire, nous on a bénéficié de la politique de la ville, Agathe Calvert. Alors, c'était bon, parce que c'est elle qui est au-dessus de Claudius Jonathan, qui lui a le projet en main, mais c'est elle qui dirige. C'est tout à son honneur. Et seulement, c'est on vous donne des murs et vous vous débrouillez. Le mur, maintenant, on se débrouille. Les subventions, c'est 2000 francs par an.
Par an ?
Ça fait 200 balles par mois.
C'est à peine incroyable.
Pour un club de boxe qui a des titres de champion maintenant, etc. Alors, pas de vie. Alors que ça coûte cher. Une meilleure paire de gants coûte
400 francs,
une paire de gants. 200 balles par mois. Les subventions, vous
mérite. Mais comment vous vous démerdez alors ? C'est pas vivable.
C'est 40 francs la cotisation.
40 francs, d'accord.
Je parle un petit peu de chiffres parce que je suis trésorier. C'est 40 francs par mois la cotisation. C'est parce qu'on ne peut pas être gratuit.
C'est un principe la cotisation. Pour nous, ça a toujours été un principe.
On veut que les gens payent, on ne veut pas que ça soit gratuit.
Ouais, ça n'avait
pas. Dans un quartier dans lequel on est, il faut que les gens payent pour venir. C'est le départ de la motivation. Si c'est gratuit, tout le monde vient, tout le monde repart le lendemain, parce que personne ne revient. C'était 30 francs, hein, en 97, 98,
on est obligé d'augmenter.
Ça augmente. On a monté 10 francs.
Ça va, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas trop cher, Karim et Jérémy ?
Non, mais il faut savoir qu'on a. Il y a aussi des choses hein, qu'on sait faire. Par exemple, on utilise le coupon sport tous les ans. Hein, les gens qui ont le droit à l'allocation de rentrée scolaire peuvent bénéficier, grâce au chèque de l'ANCV, hein, d'une participation, aussi les comités d'entreprise, etc. On cumule tout ça pour pouvoir permettre aux enfants de pratiquer, de se payer quand même une licence hein, pour ceux qui ont envie de boxer, qui est quand même assez cher. Hein, une licence de boxe pour un boxeur amateur, c'est 250 francs. Hein. Sans compter le rendez-vous d'ophtalmo, sans compter le rendez-vous du docteur, sans compter tout ça. Hein. Donc voilà, enfin il y a un suivi médical.
C'est pas n'importe quoi. C'est payant.
Donc on se débrouille pour que ça leur revienne le moins cher possible.
Excusez-moi, on allait écouter un morceau et puis je vois qu'il y a un petit doute sur le titre du groupe qui s'appelle Sugar Bang Bang.
Ah c'est Sugar Bang Bang.
Qui est sur qui est interprété un morceau qui s'appelle Don't Taste.
Le R était.
Sugar Bang Bang et c'est la musique du film Ghost Dog.
Ghost Dog est un excellent film que j'invite tout le monde à louer ou à aller voir. Jim Jarmusch, on y va.
It's time to come again. See my time is springtime gone again. Anything test, anything can drop. Tell him the blood must come for run. If a song test, I tell him road boy cock. But the night in the meeting, the naughty talk. He don't test me now, he don't try me now. Standing high. Cinema let them come, tell me burn it dim. New them know the done, man I run a dim. New them know that we no take back no shot. And me pop back me 4-5 lick a shot. Tell another sound boy me this a must pop a shot. In them face, in them back, tell me must fall back. Tell him, run go away. Tell him don't come and test. Tell him don't contest. Tell him on the champion. He's an on the champion. Who that talk? Sugar bang bang. Tell him how me run on the spot. Tell me cop, how me unti and me non take a talk. They don't know me, but they better not try me.
holding on the no style world part love. Let me 99 more me real dangerous. Let me cock back the big thing them call chorus. I'm an human, I'm the pussy, all the one comes us. No them hear me, no hear me, hear me. No them no see me, see me. So why them try me, try me? And then no ready to did. Them don't pay me tin chong, but with them pay me, pay me. So tell them I'm champion and boy, I'm in the run. Don't try to test as a champion. If you're not ready. Whoa, stand out. Hey, little sound boy. Won't you come again? Wow. Do you want to contest a champion? I ain't no ready, you know. Every night, every day, in the Sunday, in the morning. I remember smoking Simpsy with my grandpa. He said, hey, little youth man, don't move too fast. Cause this crazy world that you're living in, they don't understand. So I'm in a
Allez, on retrouve nos invités avec Thierry et Kassem, le ring de l'estuaire. On en était à la partie financement et puis bah, on a parté. Kassem, tu me disais que bah, pour faire vivre ce club, tu étais obligé de donner des cours, passer un contrat avec l'université par exemple. Et puis bah, l'argent que tu pouvais récolter, tu réinjectais ça dans le club pour le, bah, pour le faire vivre tout simplement.
Ouais, je vais expliquer ça autrement. C'est que pour déjà, on a des charges à payer pour la location de la salle. Elle nous est prêtée gracieusement par la ville du Havre. On l'en remercie d'ailleurs. Hein. Mais par contre, pour la Fédération Française de Boxe, vous voyez, pour être affilié, il faut payer l'affiliation tous les ans. Cette affiliation est de 4300 francs par an. Il faut savoir, d'accord, que c'est un des sports les plus chers, la boxe. Mmh. On le dit pas assez, ou tout le monde essaie de le tenir sous silence. C'est un des sports les plus chers, 4300 francs. Une licence de boxeur amateur, c'est 250 francs. Hein, une licence de professionnel, alors c'est encore plus. Une licence de boxe éducatif, ça va encore, c'est 50 francs.
D'accord. Alors au niveau assurance, comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Parce que là,
par leur licence, ils sont assurés à la MNS, la Mutuelle Nationale des Sports. Et de plus, le club a pris aussi une assurance annuelle, hein, pour la salle, pour le matériel, pour les gens, pour les déplacements, parce qu'il y a énormément de déplacements, pour assurer nos boxeurs au mieux. Donc on paye à peu près 1500 francs par an. D'assurance.
Tu veux dire que quand il y a des déplacements pour des compétitions, des choses comme ça, la fédération ne reverse pas un défraiement ou un cachet pour justement
la fédération
ponctuellement
rembourse simplement le déplacement pour les compétitions officielles.
D'accord.
C'est-à-dire que toutes les compétitions de toute façon ne sont pas organisées par la fédération, sauf le critérium des novices. Hein, c'est la seule compétition que je connais qui est organisée par la Fédération Française de Boxe. Sinon, toutes les compétitions amateurs ou professionnelles sont organisées par les clubs. Et selon la loi de l'enchère. C'est-à-dire que c'est au plus offrant. C'est toujours au plus offrant.
Donc il y a une sélection, fatalement, vous faites une sélection pour les manifestations parce que j'imagine que s'il y a un...
Non, on peut pas faire de sélection. C'est-à-dire, en boxe amateur, quand on veut hors compétition, hein, les galas de boxe normaux, hein, qu'on fait interclub, c'est sur invitation d'un club. C'est le club qui vous invite, qui vous paye, qui vous défraie la route.
D'accord.
Donc à ce moment-là, ça ne vous coûte pas d'argent.
Et question très pratique, parce que tout le monde ne sait pas, et moi la première, comment ça se passe en vrai. Genre, dans les entraînements, il y a des boxeurs qui se révèlent plus performants que d'autres. Et après, comment vous choisissez comment se fait la sélection pour aller faire des matchs ici ou là. Enfin, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus.
Oui, bah, pour ça, ça dépend des acquis de chacun, mais il faut savoir que dans notre club, la compétition n'est pas obligatoire. Hein. Mm-hmm. Si le boxeur, le gamin a envie de monter sur un ring, à ce moment-là, je le mets.
Ah d'accord, ouais. c'est déjà pas tout le monde qui en a envie.
Je le prépare pour cela. Mm. Et en boxe amateur, on voit quand même les adversaires qu'il rencontre. Ah. On essaye de faire attention à eux, parce que c'est quand même un sport en amateur où il y a des risques. Parce qu'on a le droit de gagner avant la limite, on a le droit au chaos. En boxe éducative, c'est un petit peu différent. Hein, on n'a pas le droit au chaos, c'est plus sécurisé. Donc à ce moment-là, les rencontres sont plus souvent. Déjà, il y en a beaucoup plus. Hein. Ça ne coûte pas d'argent, hein, sauf au club en déplacement, c'est tout. Mais en organisation, ça coûte pas cher. Et à ce moment-là, ils boxent effectivement assez souvent.
Mais par exemple, sur les jeunes, si vous voulez parler d'ailleurs, Jérémy et Karim, n'hésitez pas. Sur les jeunes qui veulent, qui sont inscrits au ring de l'Estuaire, il y en a combien en proportion qui ont envie de faire de la compète, de faire des rencontres ailleurs?
On en a qu'une dizaine sur 45 qui font de la compétition.
Ah d'accord, ouais, ok.
Par contre, on peut demander à Karim qui nous raconte un petit peu son parcours. Comment il a commencé?
J'ai commencé, j'avais 8 ans. Puis j'ai commencé à la maison pour tous. Après, j'ai arrêté. Puis pendant 2-3 ans, je faisais aucun sport. Puis j'ai vu à Coquerelville, il y avait de la boxe américaine. Ça m'a intéressé, j'ai été. Puis je voyais aucune progression, je ne progressais pas. Puis mon frère Morad, il faisait de la boxe anglaise avec Kassem. Puis moi j'ai dit je vais aller essayer, puis j'ai été, puis ça m'a plu, puis je suis resté, puis j'en ai fait là-bas.
Et ça fait combien de temps maintenant alors que tu en fais là?
Ça doit faire 4-5 ans je crois.
Ah ouais,
4 ans,
87, depuis le début.
Et toi tu fais partie de ceux qui vont faire des rencontres, oui. qui montent sur le ring régulièrement?
Moi je suis sûr, Karim est champion de Normandie junior.
S'il vous plaît, quand même.
Non, mais il peut dire, il a 9 combats, il a 7 victoires, un nul, une défaite. Une défaite,
Merci.
Bon, si tu fais un angina, tu me le demandes gentiment, je te jure, je vais te le donner.
Puis on a aussi Jérémy qui peut raconter son parcours. Quand même que j'ai connu, je veux dire que c'est l'ancien du club, c'est le premier à
la mascotte.
C'est la mascotte,
ouais.
C'est la Daine, c'est Jérémy la Daine.
Ça fait combien de temps alors, Jérémy, que tu es au ring de l'Estuaire?
7 ans.
7 ans, ah ouais.
7 ans que je suis là.
Et tu as commencé à quel âge alors?
8 ans.
8 ans.
Et vous êtes dans la même catégorie, non? Comment ça se passe?
Non.
Non.
C'est par catégorie de poids. Toi, t'es en 45, toi.
Moins de
48. Moins de 48, moi je suis moins de 54 kilos. Puis des boxeurs qui sont dans notre catégorie de poids, et ben on les rencontre. Puis c'est par section d'âge. Là, je vais avoir 18 ans, je vais passer en senior. Je vais rencontrer des personnes qui ont 18 ans et plus. Puis en dessous de 18 ans, je crois 16 à 18 ans, c'est ça.
C'est junior
et en dessous c'est cadet. Puis on rencontre les personnes par poids et puis par rapport à l'âge.
Ah oui, le poids et l'âge.
Ouais. Le poids et l'âge, ouais.
Mais il faut bien préciser aussi que Karim, lui, c'est un boxeur amateur. Il a commencé en éducatif et ensuite il est passé amateur. Mais Jérémy, lui, pour l'instant, est toujours en boxe éducative. Il a été champion de Normandie aussi.
Bravo, Jérémy.
Il a participé au championnat de France de boxe éducative. Faut le préciser quand même, hein, Jérémy.
Ouais,
quelle modestie chez les boxeurs, ça, c'est
vraiment. Et quand on parle de championnat comme ça, parce que en fait, moi, c'est vrai qu'au départ, je voyais surtout des déplacements pas trop lointains. Quoi. On parlait de Normandie, mais en fait, vous allez un peu partout en France.
On va partout, là. On a été 4 fois dans le Nord, 4 ou 5 fois dans le Nord.
Plus, je crois.
Oui. On fait énormément de kilomètres parce que. Une fois qu'on a fait toute la Normandie, hein, qu'on a rencontré à peu près tous les boxeurs, il faut un peu s'éloigner. On va se mettre dans des confrontations un peu plus difficiles, on va relever le niveau. Donc à ce moment-là, il faut faire des kilomètres.
Donc se confronter à des adversaires, toujours plus pour voir jusqu'où tu peux aller, c'est ça?
Voilà, et surtout, il faut boxer pour acquérir de l'expérience. Boxer un maximum.
Mais j'ai vu que vous aviez un planning d'entraînement qui était assez chargé quand même. Tous les jours, il y a entraînement, non?
Oui.
Ça, c'est le club.
Ça, c'est le club. Tous les jours, il y a entraînement. Il faut savoir que le lundi, c'est réservé aux adhérents du club. Le mardi, comme on a signé une convention avec l'internat du lycée Auguste Perret,
on les accueille le mardi soir pour un cours de boxe de 2 heures, les gens de l'internat. Le mercredi, on retombe dans l'entraînement des adhérents. Le jeudi, comme on a une convention aussi signée avec l'université, que je suis aussi éducateur sportif à l'université pour la section boxe, j'entraîne la section boxe de l'université. Et le vendredi, on revient au cours des adhérents, hein, c'est-à-dire boxe amateur, boxe loisir, boxe éducatif.
En fait, tout ça pour dire, ne t'étrangle pas, Bertrand.
J'ai pas
pensé
que vous faites avec ces cigarettes. Non, c'était le stigo.
J'ai bronché, j'ai pas voulu la soigner.
Un petit peu de boss avec Kassem, ça va aller mieux. Non, je voulais revenir quand même sur un truc, parce qu'on reviendra sur les activités du club plus en détail après l'intervention de BD de Javier Pascal qui est là ce soir. Mais juste un truc par rapport à toi, Kassem, sans te jeter des fleurs, moi je suis complètement épatée d'avoir réalisé que même si tous les boxeurs sont pas là à chaque fois, toi par contre, t'es là 5 fois par semaine en plus de ton travail.
Je travaille, à la ville.
Ouais, c'est ça, ouais.
Je travaille dans les musées, je travaille au musée Malraux.
T'es à la fois dans la culture et dans le sport éducatif.
C'est un très bon musée.
Et t'es divorcé, non?
Non.
Et en plus, elle
supporte,
il a des enfants.
Elle travaille au musée aussi.
Non, elle est boxeuse, mais en professionnel. En boxe,
non, non, mais c'est très, très, très difficile.
Non, je veux dire, honnêtement, ça va être très, très prenant, quoi, de faire ça. C'est très prenant.
Mais on cherche des solutions. Hein.
C'est doublement prenant dans le sens où Kassem, l'éducateur sportif, qui faisait un prof de boxe, qui est en contre le municipal au musée de Malraux, et que même personne qui peut gérer certains budgets, certaines subventions, certains pouvoirs, nous ne veut pas recevoir. Il a le droit d'être un poste d'éducateur sportif à la MGD.
Parce que j'ai le concours aussi d'éducateur des activités physiques et sportives.
Ah oui, d'accord. Donc en plus.
Direct et sans réponse. Alors, j'en s'en appelle solennel, monsieur Ruffinac, si nous écoute. Qui pense à nous. Ouais. Il l'a déjà vu.
Je ne sais pas si ça marche beaucoup parce que ça fait sur différents sujets. Hein, c'est la 6e émission.
Qu'on interpelle.
On lance souvent des appels à monsieur Ruffinac. Mais...
C'est le maire du Havre. C'est un interlocuteur. Nous, on a égalité à l'air avec le président du conseil général.
Bien sûr.
Le premier adjoint. Je vais lancer elle aussi, il n'y a pas de problème.
Bien sûr.
J'ai connu dans d'autres. Mais il y a un potentiel chez les individus qu'il faut savoir utiliser.
En plus, là, c'est pas pour vous balancer une fois de plus des tas de compliments, mais quand même, quoi. C'est typiquement le genre de truc où tu te dis de l'extérieur, ça devrait recevoir des aides, même minimales, c'est logique. Ça s'inscrit dans la vie de quartier, ça s'inscrit dans l'aide aux jeunes, entre autres.
Et en plus,
il y a des résultats, il y a du monde.
Il faut savoir que le projet de M. Claude Hutchinson, ça marche. Hein, c'est-à-dire, c'est un très bon projet. Hein. Juste à côté de la salle de boxe, vous avez toute une salle de sport, hein, un gymnase, hein, qui est ouvert. C'est-à-dire, aucune porte n'est fermée. Et on peut utiliser tout le matériel est mis à disposition. C'est-à-dire, si on veut faire du ping-pong, on fait du ping-pong. Hein, jusqu'à 10h du soir.
Et beaucoup de jeunes sont impliqués dans les différentes activités parce qu'on...
Bien sûr, il y a plusieurs activités dans la structure. Hein, nous, c'est la boxe. À côté, il y a de la danse, il y a de la gymnastique pour les gens. À côté, il y a tout le pôle associatif auprès du bar et de la salle associative. Alors, il y a de la couture, il y a un tas d'activités. Il y a les cours du soir, il y a les dos de voir, il y a un tas de choses. Et tout ça, ça fonctionne, ça vit.
Je t'arrête juste un peu parce qu'on a prévu, tu sais ce que c'est, d'y revenir après pour parler plus de, justement, entre autres, la vie de quartier et comment tout ça s'articule. En attendant, c'est pas de la provoque, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, notamment Dom de l'Apple Pie. On va écouter Higelin qui nous chante un morceau qui a un rapport avec la boxe, vous me direz ce que vous en pensez, c'est John Jones.
We'll be right back.
Allez, on va changer un petit peu de sujet. On va aborder tout simplement la bande dessinée ce soir. Et bah, je suis vraiment content de. Bon, on est vraiment très content de t'accueillir, Pascal.
Bah, moi aussi.
Ouais.
C'est sympa. On verra après si les autres sont contents. Mais...
Okay, donc
c'est la première fois, ça sera peut-être pas génial, mais on va essayer tout de même.
Il n'y a pas de première fois. On y va comme ça.
On y va comme ça.
Bah, je crois que ce soir, tu voulais nous parler.
D'une première partie où il y aura effectivement deux albums mobilés.
D'accord.
Et d'une deuxième partie, il y aura deux polars. Okay. Donc je vous dis tout de suite, ça ne sera pas franchement gay, mais il y a de quoi faire quand même. Donc et puis comme on parlait de toute façon de combat, et puis ça peut être de combat pour la vie aussi. Donc on va commencer par une BD qui s'appelle Gradier, qui est écrit qui est dessinée par un auteur qui s'appelle Joe Sacco.
D'accord.
Qui est un dessinateur américain et qui est un journaliste au départ, qui a une formation de journalisme, qui a eu son diplôme de journaliste dans les années 80 dans l'Oregon, mais qui a toujours préféré voyager et rencontrer les gens plutôt que rester chez lui à écrire ses papiers. Donc ce qui a valu au départ dans les années 90, il a été en Palestine parce que ça le tracassait depuis un certain temps et puis il aimait extrêmement la cause palestinienne. Donc on comprend, n'est-ce pas? Donc il a été par lui-même voir ce qui se passait dans les camps en Palestine et il a eu une sortie donc de BD de ses voyages en Palestine qui ont reçu des prix en Amérique, même en France.
En Amérique.
En Amérique, oui. C'est assez curieux, il faut le dire. Ouais. Effectivement. Alors c'est un personnage assez atypique parce qu'il a un parcours atypique. Bon, il est né à Malte. Il a vécu quand même 11 ans en Australie.
Ouais.
Et puis après, bon, il s'est baladé énormément. Il a toujours aimé rapporter des articles, des croquis, etc. de ses voyages. Et donc ça a commencé effectivement en Palestine. Et là, Goradjé, en fait, ça se passe en ex-Yougoslavie. Où il est parti quatre fois en fait entre 95 et 96 quand même, et dont il est parti surtout à l'enclave de Goradze, qui est un petit village
tristement célèbre.
Et en fait il y a la dernière enclave où il y a les musulmans qui sont là et qui sont encore protégés par l'ONU.
D'accord.
Parce qu'il y avait trois enclaves en fait. Il y avait donc, que je ne dis pas de bêtises, que je prenne dans le papier quand même. Il y avait donc... où j'ai mis ça, premier blanc de la soirée, n'est-ce pas, monsieur?
Je l'ai trouvé, c'est pas grave.
Oui. Donc, je l'ai marqué normalement.
Mais c'est ce donc... sont...
Oui, vas-y, bah, très bien, si tu veux.
Ouais. Non, juste, ce sont des carnets de route ou c'est romancé pour essayer de...
Ce qui est marrant, en fait, dans ce style, c'est qu'on a plutôt des témoignages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'intervient pas vraiment en tant que... pour prendre parti. Mm-hmm. C'est qu'il ramène toujours des témoignages. Qui les met en image comme des espèces instantanées, mais il a une telle force qui fait que ça prend et que ça n'est jamais vraiment complètement figé.
Mais ça ressemble
plus à... Ce sont des faux journalistes, finalement.
Oui, aussi.
Non, mais c'est vrai.
Est-ce que c'est plus du reportage imagé?
Voilà.
C'est quand même...
Non, je pense que c'est plus du reportage imagé. En fait, ce qu'il a vu, c'est rencontrer les gens. En retirer l'expérience des gens et prendre leur témoignage pour effectivement donner une ambiance, une
retranscrire ce qui se passe.
Alors par contre, bon, c'est vrai qu'il fait le parallèle toujours. Il fait toujours le parallèle entre l'histoire et le témoignage.
D'accord.
C'est un rendu très très prenant et très intéressant.
C'est mieux que le journal de TF1.
Voilà, je pense aussi que c'est beaucoup plus...
On t'a un peu coupé, mais tu voulais peut-être parler du graphisme aussi, je ne sais pas.
Le graphisme, ouais. Mais je vous dis, c'est très... on a l'impression de voir des clichés, par moment, photos. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a une telle liaison entre le texte et les personnages, et les clichés, que en fait, ça fait vraiment de la BD, et ça a une vie interne extraordinaire.
Le texte ne prend pas le pas sur l'image et vice-versa. Les deux se...
Bon, c'est faut dire, c'est en noir et blanc, c'est très...
contrasté par définition.
Contrasté, ça fait très photo aussi, parce que bon, il y a tout un tas d'ombres, de lumière, et qui est très très, très très beau. Et c'est vraiment assez très très fort au niveau du...
Tu peux nous redire le nom
Alors, ça s'appelle Goradjé. Mm-hmm. Hein, pas, donc ça s'écrit G-O-R-A-Z avec un petit chapeau à l'envers
à la
Yougoslave. Comme je ne sais pas le prononcer, comme lui il le met dans son livre, en fait ça s'appelle Goradjé. Voilà, okay. Sa prononciation. Mais bon, c'est vraiment très fort. Et bon, là c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie dans peu de temps. Et ce qui est vraiment très fort, c'est qu'il arrive à interviewer les gens et à ressortir par les témoignages de voisins, de profs qui l'interviewent, de toute l'histoire vraiment de Goradjé, et par petites touches, vraiment par petites touches comme les impressionnistes, etc. Et c'est vraiment très intéressant.
Par les histoires personnelles vécues, des
personnelles, des voisins, des misères en fait, qui a pu arriver aux voisins, et Dieu sait qu'il y en a eu, parce que bon, c'était vraiment très dur. En fait, bon, ça commence en 95 quand on lui arrive. Bon, c'est pratiquement la fin en fait des événements. Il reste juste cette enclave là, et les deux autres enclaves que je n'ai toujours pas trouvé le nom sont tombées du fait que effectivement l'ONU a retiré ses troupes.
Ça pourrait nous revenir. Il n'y avait pas ce Brenessa dans l'histoire.
Si.
Je pense que c'était une des deux autres, hein, mais.
Et donc les deux autres sont tombés et eux sont les seuls à rester encore là. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a un espoir dans le truc, c'est que de toute façon, ils savent très bien que la guerre commence à se terminer. Et ce qu'ils racontent, en fait, c'est leur espérance
ils ont toujours quand même un espoir malgré ce qu'ils ont
pu vivre. Oui, oui, oui. Un espoir, en fait, comment dire, c'est la vie qui commence à reprendre. Ils savent très bien que là, la guerre va s'arrêter et qu'il faut voir le lendemain. Et que ça va reprendre. Et donc, il faut rouvrir un peu à la vie. Et donc, c'est la fin, effectivement, ce sera certainement la fin de Goradjé. Parce que bon, le village, par lui-même, ne va pas rester comme ça, l'enclave ne va pas rester comme ça. Donc, ils savent très bien que leur vie, telle qu'elle était pendant certaines années, ne va pas rester comme ça. Et donc, ça va rouvrir sur la vie. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'entre Josaco les rencontres, qu'ils sont ouverts à plein de choses. Ils sont ouverts à la musique et qu'ils attendent que ça.
Ouais, ils ont envie de
reprendre. En fait, ils racontent leur histoire, mais en même temps, ils ont des espérances assez solides.
Ouais, ça donne envie, en tout cas.
Excellent, ouais.
Et donc, ensuite, nous avons une deuxième chose, qui est une BD qui s'est parue à l'association, qui s'appelle Persepolis. Ça, c'est le premier tome aussi. Et en fait, c'est fait par Marjane Satrapi, qui est une dessinatrice iranienne, une jeune dessinatrice iranienne, et qui s'est un peu en parallèle d'ailleurs de Goradjé. Et elle raconte en fait son enfance en Iran. Parce que bon, maintenant elle vit en France, mais elle raconte son enfance en Iran sous le régime du Shah, et après sous la République islamique. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est vu à travers les yeux de l'enfant. C'est-à-dire, bon. Il y a toujours un côté naïf dans l'affaire, même si elle se rend compte qu'effectivement les événements s'amplifient au fur et à mesure. Bon, déjà sous le chat, c'est pas franchement marrant, on peut le dire. Et puis, mais elle, bon, c'est vrai qu'elle est issue d'un milieu assez bon, aisé, donc assez impersonnel. Et puis, petit à petit, elle se rend compte, en écoutant aussi sa famille, en écoutant, bon, en se rendant compte qu'il y a des manifestations autour, en écoutant les ses copains à l'école, etc. Il y a des choses quand même qui se passent bizarrement. Et d'un côté, effectivement, il y a le chat, il y a la période du chat, qui est bon, plus ou moins face à elle, parce que bon, pour elle, parce que bon, elle n'est pas du tout stressée. Et elle se rend compte du jour au lendemain, quand il y a des amis, effectivement, ceux qui étaient contre le chat à une époque sont aussi persécutés.
Oui, d'accord.
Ils ont amené plus ou moins la révolution, sont persécutés par les islamistes. Et donc, ça nous vaut une vision assez naïve et en même temps assez dure de choses. Parce que bon, quand une enfant de 10 ans, raconte ce genre de choses, bon, ça porte assez loin.
Donc ce premier tome, Persepolis, ça va jusqu'à quand
Ça va en fait des années 79. Elle est née en 70. Donc toute la période effectivement un peu faste, elle a connu. Donc la fin du chat en fait c'est en 79. Et
de pouvoir remédier, etc.
Tous les problèmes qu'il y a eu en fait. Bon, le chat, c'est vrai, il avait une autorité en fait assez importante, mais c'était pas la panacée non plus, loin de là.
Loin de là, on peut le dire.
quand même. Et donc ça va jusqu'en 80, et le premier album s'arrête effectivement début 80, juste peu de temps après le pouvoir de la révolution islamique.
De toute façon, tous les témoignages de femmes issues d'Iran, à mon avis, se.
Oui.
On est d'accord.
L'album commence par lui-même, par. L'entrée en matière, c'est j'ai 10 ans aujourd'hui et je viens de rentrer à l'école et le châle est obligatoire. Enfin, le port du
châle est obligatoire. D'accord.
Ouais, ça
donc, c'est pas forcément très plaisant.
On écoute Lickers, on reviendra après sur les titres des albums. Tu nous rediras, Pascal, les noms des auteurs et les titres des albums. On écoute Lickers.
Power kings, chanceless victims, nameless graves, a weird death in my veins, planned murder by greedy slaves. So I wanna go to paradise, I wanna live my life again, a second chance to bring me start, I wanna live my life again. I
I wanna see all my friends last forever and a day. I wanna see all my folks last forever and a day. I wanna see my beloved one last forever and a day. I wanna see the cheering man last forever and a day.
D'arrêter vos conversations car la musique des Hollikers s'est arrêtée. Et les Hollikers, je voulais en parler parce que, au moins pour le public à vrai, il n'y a plus beaucoup de temps pour ceux qui sont sur le web sur radio.ap.free.fr. Mais pour les auditeurs qui sont au Havre, en tout cas dans le bar ce soir, qui vont nous gauler tout de suite, les Hollikers passent demain à la Cafette et c'est un excellent groupe. Ils passent avec les Vipères, un groupe canadien. Et je sais pas le prix, mais c'est sûrement pas cher et ça sera excellent. Donc allez-y. Et après tout ça, ben on en revient au ring de l'estuaire avec nos invités et notamment Karim et Jérémy, qui sont deux boxeurs du ring de l'estuaire et qui vont peut-être nous parler un petit peu, un petit peu plus. Ils ont déjà dit quelques mots tout à l'heure de pourquoi ils font ça et de quoi ils ont envie.
On fait de la boxe pour s'épanouir, pour se défouler. Et puis pour comment dire, pour grandir, pour je sais pas. Moi j'en fais personnellement, c'est parce que j'aime la boxe, j'aime aller à l'entraînement, j'aime ressortir fatigué et apprendre de nouvelles choses. Et puis pour après dans les combats ressortir ce que j'ai appris à l'entraînement. Et puis pour me faire plaisir d'abord, pour faire plaisir à Kassem parce qu'il nous il nous pousse, et puis quand on fait quelque chose qui lui fait plaisir, et ben on aime bien avoir son sourire, puis on aime bien faire de belles choses. Puis quand les gens ils vous applaudissent, et ben on est content.
Et Jérémy ?
Moi j'aime bien les combats, la tension qu'il y a dans les combats. Et l'entraînement, c'est bien aussi quand on est fatigué, on se défoule en entraînement.
Mais ce que tu préfères, c'est la compétition quand même, c'est la tension qu'il y a entre les...
Ouais, c'est bien la tension, ouais. L'ambiance qu'il y a dans la compétition.
On dirait pas que c'est une petite frimousse comme ça.
On dirait pas que c'est une petite frimousse, disait
ouais,
Bertrand.
Ouais.
Mais pourtant, c'est un boxeur.
Ça boxe, hein. Il boxe bien.
Il boxe bien apparemment.
À quel âge tu as, Jérémy ?
15 ans.
Et tu fais de la boxe depuis... Tu l'as dit tout à l'heure, excuse-moi.
8 ans.
Ouais.
C'est ça qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la boxe au départ ? Parce qu'à 8 ans, quand même,
bon, au départ, je voulais faire du sport, je ne savais pas quoi faire. Après, j'ai vu qu'il y avait de la boxe, j'ai fait de la boxe, après ça m'a plu, j'ai arrêté, puis après j'ai arrêté encore. Puis j'y vais tout le temps.
Mais c'est pas parce que tu connaissais des gens qui faisaient de la boxe, etc. C'est vraiment une volonté propre au départ.
Ouais. Je connaissais personne au début.
Et quand tu étais petit, c'est parce que tu suivais déjà des combats de boxe à la télé ou tu avais des idoles ou...
Tu peux lui poser la question. Est-ce que tu te battais, toi, dans la rue?
Peut-être déjà au départ.
Est-ce que tu te battais dans la rue, Jérémy?
Je me battais pas dans la rue.
Jamais,
jamais. Non.
C'est les autres qui t'appellent.
Jamais, Jérémy. Non, mais faut dire, Jérémy.
À l'ouverture du club, ce qui était marrant, c'est un bon souvenir, c'est que c'était des enfants qui venaient avec leurs parents. Avec leurs parents. Main dans la main, à 8 ans, avant. Mon fils va faire de la boxe, expliquez-moi comment il va s'en sortir, vous allez prendre masse après, etc. etc. Donc
il y avait une démarche
expliquer aux parents que leur fils n'allait pas en sortir avec un genou comme ça, des oreilles comme ça. Ce qu'a dit Karim, c'est très très important sur l'échange qui est obligatoire dans un club, une association entre le prof et les élèves. C'est-à-dire c'est indéniable, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de progression. Il y a progression si il y a une entente. Une entente qui va jusqu'à une entente disciplinaire. C'est-à-dire que le KSM, c'est pour un prof qui est cool, c'est un prof qui les fait bosser. À un moment où ils ont envie de bosser, il y a un échange qui se crée et qui les fait progresser. Et c'est pour ça qu'ils sont reconnaissants et puis nous aussi, nous sommes reconnaissants de leurs résultats. Mais ça va continuer.
J'espère.
Karine, il espère, elle est là.
Mais c'est pas. Ça a l'air comme ça évident, parce que vous êtes en plein dedans, hein. Mais je suis persuadée que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, comme pour moi la première, je suis entièrement novice là-dedans, mais pas uniquement en boxe, hein, en sport tout court, de savoir forcément qu'est-ce que c'est, justement, un entraînement, qu'est-ce que c'est progresser, tu vois, qu'est-ce que c'est, quel effet ça fait.
Bah c'est progresser, c'est des enchaînements, des coups, des déplacements qu'on apprend à faire. Et après, par l'habitude de suivre, de faire le mouvement, de continuer à le travailler à l'entraînement ou en dehors. Puis après, le faire comme ça, instinctivement, sans y penser, comme ça.
Ouais, en fait, finalement, c'est pareil comme... On n'a pas autour de cette table aujourd'hui, mais comme quelqu'un qui joue de la guitare, qui répète, et puis à un moment donné, tu arrives à faire ça sans regarder ton manche, quoi.
Voilà. C'est bien les automatismes.
Je prends un exemple. Au début, moi, quand j'ai commencé, je ne savais même pas faire une pompe. Maintenant, je sais en faire. Je fais comme tout le monde.
Et maintenant, Jérémy, il faut au moins 20 pompes. 20 pompes, Jérémy. Il y a un an, on en faisait une.
Et donc, vous deux, par exemple, vous faites combien d'entraînements par semaine?
3.
3.
Ouais, quand même.
Mais enfin, s'il y en avait 5, Jérémy viendrait 5 fois.
Et les devoirs dans tout ça?
Passion.
Et les mecs, les devoirs dans tout ça?
Bah, on le fait soit avant, soit après.
Qu'est-ce que tu fais, Karim? Qu'est-ce que tu fais? T'es en quelle classe? Tu passes en quoi?
Je passe en première, là.
Et toi, Jérémy?
Je passe en seconde.
En quoi comme seconde aussi?
En orientation bac S.
Comment concilier sport et MSC?
Parce que de toute façon, vous avez déjà une visée sur le métier que vous voulez faire ou...
Oui, on a déjà. Non, on a déjà une vision. Moi, je veux faire dans le commercial. Puis voilà.
Putain, c'est un intérêt de tourner, je te le dis.
Ça sera un bon vendeur.
Et toi, Jérémy, c'est pareil, tu ne veux pas faire de la boxe uniquement? Tu devrais travailler par ailleurs et faire de la boxe à côté ou...
Je fais la boxe comme ça.
Comme passion, mais
comme passion
pas
aussi.
Comme métier?
Non, pas comme métier, comme passion.
Et si vous pouvez percer un jour l'un l'autre?
Pourquoi pas? Ça serait bien. Tout le monde rêverait de devenir un célèbre, un boxeur célèbre ou bien un sportif célèbre.
Ah, ouais, tu es dans le loft.
Quels sont vos idoles d'ailleurs?
Quand tu as une passion, tu connais surtout peut-être jusqu'au bout. Quand tu as une passion, peut-être que, comme tu es la boxe, je pense que tu vas le plus loin possible.
Bien sûr.
Donc à partir de là, si tu as les possibilités et l'envie, bon, tu peux aller le plus loin possible.
Quelles sont vos idoles?
En
principe.
Ben, on pourrait dire en premier, Mohamed Ali.
Ouais. Ok.
D'abord, c'est le premier nom qui vient. Ensuite, ouais. Tyson. Puis après, je vais pas tous les citer parce qu'on va passer toute la soirée.
Et toi, Jérémy?
C'est pareil.
C'est les mêmes.
Ouais, ouais.
Mais Mohamed Ali, c'est... Oui, excuse-moi.
Il n'y a pas d'idole spéciale. C'est...
Les boxeurs français.
Boxeur français.
Oui, on va en parler, parce que quelque part, vous êtes français aussi.
Oui.
Donc la représentation de ce que vous avez comme art, vous pouvez justement leur donner...
Bon, boxeur français, bah, il y a Larcy, il y a que lui, ça reste, il y a... Voilà, Tiam, ça c'est tout, quoi. Il y a que lui, il y a que eux deux que je vois. Ça, les autres, on n'entend plus parler.
Et question bête, hein, toujours pareil, par rapport à vos copains, tout ça, c'est bien d'être un boxeur, c'est du respect, c'est quelque chose, c'est de l'admiration,
non, ça change rien.
Ça change rien, c'est
et
pareil.
Et pour les filles. Yes. Yes. Alors,
c'est qui ça? Il y a du mal.
Bah avec les filles, moi je dis jamais en premier, je fais de la boxe. Je parle d'abord de moi, puis après si elle me dit est-ce que tu fais du sport, et bah je lui dis je fais de la boxe.
Tu mets en avant bien.
Quelle classe.
Il a tout compris.
Hein? C'est... Oui, je leur dis je fais du foot et de la boxe. C'est toujours bien de dire qu'on est un sportif. Les filles sont plus épatées.
Tu fais plusieurs disciplines.
Ouais, j'en fais deux. Du foot et de la boxe.
On continue avec le ring de l'Esther avec Karim et Jérémy, mais tout de suite on écoute Bel Canto, Bombay.
I've been to Bombay, I've seen what a man can do. He climbs up a straight rope right up to the cliff of moon. And boom, he is gone, yeah, heaven is not that far. And limbs from a body are falling down on the ground. Thank you.
sommes toujours là avec nos invités de ce soir, Karim, Jérémy, Thierry et Kassem, pour parler du ring de l'estuaire et donc de boxe en général, de boxe éducative en particulier. Et puis aussi ben, du ring de l'estuaire lui-même, à Cocry-Auville. Ben, je sais pas, Kassem, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire? Est-ce que...
Ben, moi, quand même, j'ai envie de parler un petit peu de la spécificité de la boxe, parce qu'elle est quand même un peu décriée. Hein. Elle a failli être interdite aux Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'avec bon, pas mal de magouilles qui traînent dans la boxe, qu'on joue toujours traîner dans la boxe. Parce qu'il faut savoir que la boxe a été un des premiers sports professionnels. Hein, ça a toujours été synonyme d'argent. L'argent a toujours été un ami.
Avec des paris,
on n'a jamais boxé gratuitement. Voilà. Sauf en boxe éducative, bien entendu. Hein. C'est différent.
On s'aperçoit quand même qu'il y a des magouilles dans tous les sports.
Oui. Mais bon.
Je sais pas pourquoi la boxe a de plus décrié maintenant que.
Mais dans les autres sports, avant, au départ, il n'y avait pas d'argent. Hein, mais le plaisir. Pas, hein, comme Coubertin disait, hein, l'important c'est de participer. Maintenant, on en est loin. Mais pour tous les sports maintenant, tous les sports.
Mais un type comme Don King, il t'inspire quoi, toi? Quand tu vois ça, ça fait pas un peu cirque? Ça donne pas une image un peu ridicule de la boxe? Ou alors c'est vraiment, ça nous dépasse, c'est au-dessus, c'est l'argent, c'est la pub, c'est...
Ouais, mais on peut lui reprocher plein de trucs, c'est comme un tapis. Mais enfin, c'est comme tapis. La France a été championne d'Europe grâce à lui.
Moi, je préfère qu'on ait le tapis, parce qu'alors là, on pourrait
vous les mettre. C'est pas quelqu'un qu'on aime, c'est pas quelqu'un qu'on aime. De toute façon, ces gens-là, on pense pas qu'on les aime. Hein. Et ils ont été importants. Hein. Donc King, quand même, c'est grâce à lui que les boxeurs ont commencé à gagner de l'argent. Mais ça, personne ne peut le contester. Un mec comme Mohamed Ali, il a gagné de l'argent. Bon, il a rencontré Don King. Hein. On se rappelle des super organisations de Don King où on voit
Foreman.
Mohamed Ali bat Foreman en Afrique. Hein.
C'est lui qui a médiatisé, qui a...
Voilà, c'est quelqu'un qui a bien su l'avant, au télé, c'est quelqu'un qui a... Bon, à partir de là, quand même, c'est un personnage un peu bizarre, un peu mystérieux, dangereux.
Ouais, on peut dire plus, ouais.
Hein, enfin, moi,
mais on a besoin... Je crois que... Faut savoir qu'on... Il y a du pour, il y a du contre, mais il faut savoir qu'on a quand même aussi besoin de ces gens-là, quelque part.
Personnellement,
même si on les aime pas.
Personnellement, même parce qu'on n'a pas un temps indéfini, encore que je préférais qu'on soit plus dans la passion même de la boxe et que...
Non, mais ça fait partie de la boxe aussi, quand même, non?
Oui, non, bien sûr, ouais, je dis pas le contraire, mais plus, parce qu'on l'a pas tellement évoqué quand même, on a un petit peu parlé des boxeurs, mais on sait pas trop pourquoi ils sont aimés ou pas. Je vois que vous avez amené un petit peu de doc,
ouais.
C'est-à-dire des bouquins de gens passionnés, donc peut-être que vous pouvez
dire quelques mots. J'ai un super bouquin de quelqu'un qui parle de la boxe, qu'on parle très très bien, c'est Joyce Carol Watts, et le livre s'intitule « De la boxe », c'est chez Stock. Hein. Elle est super photographie de Joe Brana. C'est vraiment un livre fantastique, hein, où on se pose de la question de la boxe. Elle se pose une question.
Mais voilà, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une fille qui a écrit ce livre.
C'est autre chose différent. Parce qu'on peut dire j'aime la bière, j'aime les femmes, mais peut-on dire j'aime la boxe? Alors c'est une passionnée, c'est quelqu'un qui adore ça, et elle donne toute une explication de la boxe à travers son histoire, à travers ses personnalités, avec plein d'extraits aussi d'anecdotes, hein, ce que des boxeurs, qu'elle a reprise à des boxeurs. Hein. Alors il y en a une qui est très belle là, je vais vous la lire.
Ah oui?
J'ai appris quelque chose sur la fraternité des boxeurs. Les gens venaient à cette activité brutale, souvent autodestructrice, pour une quantité de raisons, surtout antisociales, relevant du domaine psychotique. La plupart des lutteurs que j'ai connus étaient des êtres blessés, qui ressentaient profondément le besoin de blesser les autres en courant eux-mêmes de réels risques. Au début, dans presque chaque cas, l'homme devait se concentrer sur bien autre chose que ses motivations de départ. Tant l'entraînement exigeait de discipline, d'habilité, et souvent, il les oubliait complètement. Elle se fondait dans le brouillard. De nombreux boxeurs expérimentés, on l'a déjà noté, deviennent des êtres doux, aimables. Ils ont l'habitude de laisser leur agressivité sur le ring. Et même là, il est dangereux d'invoquer la colère. Ce peut être un stimulant, mais cela consomme beaucoup d'énergie. Il n'est pas pratique de s'énerver tout le temps.
Magnifique.
C'est un très très beau livre. Hein. Je vous le conseille, hein, pour ceux qui n'aiment pas la boxe aussi. Hein.
Donc, vraiment, ça va leur faire découvrir...
De la boxe de Joyce Carol Oates.
Watts. C'est chez Stock. Hein. C'est difficile à trouver comme livre, j'ai eu du mal. Hein. Par contre, j'ai un autre livre très intéressant sur un des plus grands boxeurs de tous les temps. Hein. C'est Mohamed Ali. Parce qu'il faut dire maintenant que la personnalité des sportifs, tout sport confondu, n'arrivera jamais à la cheville de Mohamed Ali. Hein. Ils sont tous fans, hein, faut le dire, hein. Ils sont tous dans le système, ils ont tous peur à leur porte-monnaie. Et ben Mohamed Ali, lui, il a toujours dit ce qu'il pensait, hein. Il a quand même pas été faire la guerre au Vietnam. Moi je dis qu'au-delà du boxeur, hein, ben, fallait en avoir quand même pour faire ça. Aux États-Unis, quand on est noir, juste après la ségrégation raciale, dire non, moi, les jaunes, ils m'ont rien fait, je vais pas aller leur faire la guerre, ben c'est superbe. Ça.
Mais tu crois pas que c'est parce qu'il était grand sportif qu'on l'a pas emmerdé, parce qu'il a pas été faire la
mais
guerre?
Mais il a été parce ennuyé, que le... il a... mais faut lire le livre, il a été ennuyé, on lui a retiré ses titres.
Hein. Il a refusé d'aller...
Bah oui, parce qu'il a refusé d'aller au Vietnam, il est passé au tribunal, il a failli aller en prison.
Il a payé une amende.
Il faut le lire, hein, c'est l'histoire de sa vie. C'est chez Gallimard, ça s'appelle Le Plus Grand. De toute façon, il le dit lui-même, il est le plus grand, il est le plus beau, c'est sa mère qui lui a dit. Hein? C'est parce qu'ils ne l'ont pas cru qu'ils l'ont énervé.
Bah voilà.
C'est un superbe livre. Et puis Mohamed Ali, même s'il est parkinsonien, il y en a beaucoup, ils sont, c'est à cause de la boxe. Moi je ne sais pas, hein, je ne connais pas. Je ne peux pas te dire, je ne suis pas médecin.
Il y en a d'autres qui sont parkinsoniens sans avoir fait de boxe, on sera d'accord.
Voilà, mais c'est quelqu'un qui est... C'est un personnage, c'est vraiment une personnalité. Et il n'y en a plus du tout, hein, dans le sport, des gens comme ça, non, parce qu'ils ne gagneraient pas une thune. Hein.
Ouais, mais je crois, avant d'écouter le disque suivant, je crois qu'on peut dire quand même un truc sur la société qui a changé, tout simplement. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Le star system n'était peut-être pas le même, même s'il existait à l'époque de Mohamed Ali. Et c'est vrai qu'il avait...
Alors le star system n'existait pas comme maintenant. Mais bon, peut-être que maintenant, si quelqu'un existait qui était comme Mohamed Ali, on essaierait de le récupérer. Mais c'est beaucoup plus difficile, c'est quand même dangereux.
Mais non, mais on a toujours eu besoin de récupérer des héros, ou on a toujours eu besoin de donner le peuple, entre guillemets, tu vois, un modèle ou un héros.
Oui, on a des héros, on en a plein, mais ils disent jamais ce qu'ils pensent. Parce que je vais pas, si jamais je dis ce que je pense, je vais perdre 5 ou 6 millions d'un sponsor. Si jamais je vais pas dans le même courant que tout le monde, si jamais je vais pas dans le même sens, il va m'arriver ça. La carrière est trop importante maintenant. On ne cherche plus à être le plus grand, comme Mohamed Ali est devenu, comme quoi il aspirait. Mais on essaie plutôt de...
Bah, tout le monde essaie de faire du business et il n'y a plus de rebelles. Enfin, je me permets de simplifier.
Non, mais il y a
plus de rebelles.
En sport, moi, le dernier que je connais, c'était Cantona.
Oui, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Totalement.
Et c'est pour ça qu'il y a un tas de gens en Angleterre qui l'aiment. Comme il y a un tas de gens qui aimaient Mohamed Ali aux États-Unis. On ne pouvait pas rester indifférent. Même si on ne connaissait pas le sport, on ne pouvait pas rester indifférent comme on ne peut pas rester indifférent à Cantona.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on qui prend une position.
Tandis que Zidane, tout le monde l'aime. Zidane, tout le monde l'aime.
Ouais, mais c'est très facile.
Il n'y a personne qui dit pas, j'aime pas Zidane.
Mais c'est très facile de l'aimer en même temps. C'est plus difficile d'apprécier ou d'aimer Cantona que d'aimer Zidane. Bah oui.
Bon, allez, je vous laisse méditer là-dessus.
Sur cette top 1, oui. On enchaîne sur GZA.
Arnaud, merci. Sometimes. We gotta fast and fast. You niggas know where this shit started. Y'all know where it came from. But then we're gonna take y'all back to the source. You know. Yo.
When the MCs came, tell it about their names and to perform. Some had to smoke cocaine to act insane. With the poor heat rocking on down on the mental plane. The spark of brain with the building to be on. Yo, friends, I put the track to what you got. Stick a picture, fake niggas, yes, listen. Mike Weiss, I swing swords and cut clowns. Shit is too swift to bite you, record and write it down. I flow like the blood on a murder scene. Like a syringe or some wild out shit to insert a vein. But it was your walk, shop stolen art, tension swollen heart from not rolling smart. I put bad pressure on phony whack rhymes to get hurt. Sits plate like zodiac signs, a sweatshirt. That's minimum and feminine like sandals. My minimum table stacks the first on a gamble. Energy is felt once the cards are dealt. But
the impact of roundhouse kicks from black belts that attack in white bones like cyclones or typhoons. I represent from midnight to high noon. I don't waste ink, nigga, I think I drop megaton bombs more fast than you blink. Cause rhymes thoughts travel at a tremendous speed. Clouds of smoke of natural blends of weed. Only under one circumstance, as if I'm blunted, turn that shit up, my clan in the front want it. That with the MCs came to live out the name. A&T to perform, some had to snort cocaine to the act the same. Or he dropped it on, down on with the mental plane, just to spark the brain with the building to be born. Yo, the rhythm up with the track with the what? I'm on a mission that niggas say is impossible. But when I swing my swords, they all choppable. I be the body dropper, the heartbeat stopper. Child educator, blush head imitator. Cause niggas styles are old like Mark 5 sneakers. Lyrics are weak like clock radio speakers. Don't even stop at my station and attack while you're playing bell with the rep like Amtrak. What the fuck for? Damn, my lord, make law. I be justice, I sentence that ass 2 to 4. Ram the clock, that state pen time, check it. But the pins I'll be sticking with, you can't stake the crime. Came through with the wool, slid off of the DL. I'm low key like seashells, I rock beach bells. Now come aboard, it's Medina bound into the chamber. And it's a whole different sound, it's a wide entrance. Small exit like a funnel, so deep it's picked up on radios and tunnels. Niggas are fascinated how the shit we get vaccinated. My logo is branded in your skin with the MC's cane. To live out the name, you can add to perform some hat. To snort cocaine, to act the same. Before he rocked it on, now on at the mental plane. Just spark the brain with the building to be born. Yo, rinse up the track. What the fuck is it? The point of the act.
Allez, on se retrouve sur Radio Apple Pie. Entre-temps, Grégory s'est assis à côté de nous. Grégory, tu vas nous parler du théâtre de la Manicle, qui a cette particularité, c'est que c'est un théâtre qui... c'est une troupe, enfin tu vas nous en parler un petit peu précisément, qui propose des spectacles en anglais. Alors je te laisse la parole, et si tu peux nous...
Le théâtre La Manicle, c'est une association de théâtre professionnel qui a été créée il y a 25 ans. C'est une asso qui a été reconnue par les institutions. On est subventionné par la ville du Havre, le département de la Seine-Maritime, la région de Normandie et la Commission européenne.
D'accord. Et donc la finalité pour vous, c'est
de pouvoir permettre l'échange de la culture française et britannique par l'intermédiaire du théâtre.
D'accord. Donc concrètement, ça se traduit par
deux stages, un stage amateur et un stage professionnel. Le stage amateur se déroule du 2 au 7 juillet. Le public ciblé, c'est toutes les personnes ayant plus de 16 ans. Le stage est dirigé par un comédien professionnel anglais et une comédienne professionnelle française.
D'accord, donc pour expliquer un petit peu aux auditeurs, ça veut dire que nous, spectateurs, on peut se présenter au théâtre et puis assister à une pièce qui est totalement en langage anglais, tout simplement, c'est ça, en langue anglaise.
C'est pas le but du stage, parce que le stage, en fait, c'est directement destiné aux comédiens.
Aux comédiens,
oui.
D'accord, ok.
Qu'ils soient amateurs ou professionnels.
D'accord.
Bon, après c'est suivant le s'ils sont amateurs, ils demandent un stage amateur, et s'ils sont professionnels, ils demandent un stage professionnel.
Logique.
Jusqu'à là, tout le monde suit.
Bon. D'accord.
Et donc pour continuer dans le théâtre amateur, le travail effectué sera sur la gestuelle et sur le vocabulaire, sur l'improvisation, sur des textes contemporains français ou anglais. Suivant la demande du stagiaire. Et à la fin de ce stage, il y aura un spectacle organisé autour de ce travail-là. Et ce spectacle, ce sera devant un public restreint et averti.
D'accord, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, mais en même temps il y a des professionnels qui sont là pour juger un peu du oui. travail fait et éventuellement recruter des comédiens si tout se passe bien pour eux, tout simplement.
Voilà.
D'accord.
Et si, mais je ne souhaite pas pour eux, si franchement ils se plantent énormément, ils vont pas se faire huer lamentablement.
D'accord. vous restez, hein, c'est très bien.
Voilà. Donc ce stage a quand même un coût.
Ah, tout se paye, mon Dieu.
Ah, bah oui.
Tout se paye dans ce bâton. Eh oui.
Donc le stage est à 1500 francs. Le nombre de places est limité à 15 et le stage se déroule du lundi au samedi à raison de 5 heures par jour plus les heures réservées au spectacle le samedi.
D'accord, pour
la prestation du soir.
D'accord. Ce sont des créations, ce sont des classiques, comment ça se passe?
Ça sera du travail autour de textes contemporains.
D'accord, d'auteurs contemporains.
Oui.
Ok. D'accord.
Donc, il y a aussi le stage professionnel.
Ouais.
Ce stage se déroule du 2 au 20 juillet. Le public ciblé, c'est des acteurs, mais aussi des metteurs en scène possédant un niveau d'anglais moyen. Le but, c'est d'aborder véritablement une pratique totalement bilingue.
D'accord. Ok. Ça veut dire que, en fin d'année, le spectacle ou la création qui a été travaillée, le jour A, tu vas avoir le spectacle en anglais et le jour B, le spectacle en français. Ça se passe comme ça ? D'accord.
Enfin, le théâtre de la Manique fonctionne comme ça. Le stage en lui-même, il n'y a pas de prestation à la fin. Mmh. Mais c'est pour permettre aux acteurs et aux metteurs en scène de pouvoir effectuer un spectacle en français et en anglais.
D'accord.
Okay. Sachant que le jeu en français n'est pas le même qu'en anglais.
D'accord, j'imagine.
Et donc le travail effectué se déroulera sur deux thèmes. Le premier thème, ça sera sur une œuvre de Shakespeare, Le Roi Lear, qui est quand même assez littéraire.
Révisons nos classiques, merci.
Et là on va explorer tout ce qui est émotion, le sens le sens des émotions dans l'écriture, le choix des mots et des rythmes, le jeu et l'interprétation inscrite implicitement dans le texte.
D'accord, donc pour toutes les âmes mal intentionnées, c'est pas sous-titré parce que c'est du théâtre, on vous le rappelle.
Il y a un mec qui peut se pointer avec des pancartes.
Mais c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Écoute, on parlait avec Grégory, on se disait, il faudrait innover. Et ouais, c'est l'idée qui est.
Ça peut se faire. Hein.
Ah ouais, ouais. Il y aura aussi.
D'ailleurs, il nous faudrait des bons bras, donc des bras de boxeur pour supporter tous ces panneaux comme ça.
Déjà, ça se fait déjà. Hein.
Mais tu vois,
entre les rounds, hein, t'as toujours
des panneaux qui montent. Généralement, c'est pas des mecs.
D'ailleurs, c'est ce qui me plaît le plus dans la boxe.
C'est pas des mecs, c'est beaucoup plus intéressant.
D'ailleurs, c'est ce qui me plaît le plus dans la boxe.
Ah bah. Et donc,
excuse-nous,
toujours autour du premier thème, il y aura aussi le même travail, mais aussi sur des textes beaucoup plus contemporains. Et le deuxième thème qui sera abordé sur le stage professionnel, ce sera le thème autour de la famille déchirée. Ça sera un travail autour d'un même texte, et le travail, ça sera sur un travail de dialogue entre le corps et la langue. En utilisant les techniques de manipulation et de friction entre le langage et les personnages.
Le corps, la langue, la friction, dis donc, ça devient.
Ben, ça m'embête à peine parce que je m'appelle le corps. Donc je commence à me dire avec friction avec moi, ça va pas se faire.
Karim et Jérémy, vous allez vous coucher.
Pas tout de suite.
Ça devient intéressant.
Ça commence à devenir intéressant, voilà.
Donc là, le contenu du stage. Les dates, c'est du 2 au 20 juillet. Les prix, alors les sélections se font sur dossier. Faut avoir plus de 18 ans et faut envoyer le dossier au Théâtre de la Manicle, stage professionnel, BP 181 76 053 Le Havre, CEDEX. Alors le coût du stage s'élève aux frais pédagogiques seuls à 8 636 francs. C'est pris en charge par l'AFDAS pour les ayants droit. Alors pour les
pour ces personnes-là. Faut prendre contact avec le service de l'AFDAS et justifier 2 ans d'ancienneté dans la profession et de 48 cachets répartis sur les 24 mois précédant le stage. Le téléphone pour prendre contact avec l'AFDAS, le 01 44 78 39 39. Et il y a, pour les 2 stages, il y a des possibilités d'hébergement.
Eh ben écoute, c'est extra.
Mais il faut voir les conditions parce que tout a un prix.
Ben écoute, on invite nos auditeurs s'ils sont intéressés à contacter au numéro que tu as donné.
Ben le numéro du théâtre en lui-même, c'est 02 35 42 38 42. Et nous avons aussi un site internet qui est très intéressant. Vous pouvez retrouver toutes les informations que je vous ai données. C'est www.la-manicle.com. Et vous retrouverez tout.
Bah écoute, la boucle est bouclée, c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Grégory.
Merci à toi.
Aux amateurs. On va enchaîner.
Et aux professionnels.
Ok. On va enchaîner tout de suite sur un morceau des GBs qui s'appelle The GBs Memory. C'est parti.
This is the GBs Monorail.
Ce soir, c'est parce que sur Radio Apple Pie, on a beaucoup de choses à dire. Premièrement, avec nos invités, dont je vous rappelle qu'il s'agit du Ring de l'Esphère ce soir, avec Thierry, Kassem, Jérémy et Karim. Et puis, on a eu pour la première fois notre chroniqueur Pascal, la première fois, mais pas la dernière, qui va d'ailleurs intervenir tout à l'heure sur le polar. Et puis toutes sortes d'annonces culturelles, bah, c'est le rôle aussi de Radio Apple Pie. Hein. Mais on revient avec nos invités tout de suite. Bertrand, je parie que tu avais une question super pertinente dont tu as le secret à poser à Kassem et Thierry.
Oui, j'en ai encore 10 000 parce que moi, la boxe, pour être très franc, c'est pas un domaine que je maîtrise énormément. Et moi, je voulais leur poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de la boxe au féminin?
Bah, la boxe au féminin, ça vient de s'ouvrir. Hein, ça vient de commencer il y a à peine 2-3 ans, si je me rappelle bien. Parce que la demande était forte. Hein, il faut savoir que maintenant, les filles, elles ont envie de faire vraiment, comme on dit, comme les garçons. Quoi. Donc, elles se mettent à la boxe. Et il y a une forte demande. Et il faut savoir aussi que ça se débrouille très très bien.
Ça, j'en doute pas.
Quand on a ouvert le club, sans couper, dans le projet de l'assaut, c'était prévu, dans les structures de la salle qu'on a demandé à la mairie, on a prévu des choses pour faire de la boxe féminine.
La boxe masculine.
C'était prévu que pour ça. J'ai eu peur, en fait. Que pour avoir fait une boxe féminine à un moment donné ou à un autre.
Et après, rentrons compte d'autres problèmes, c'est-à-dire que nous, on a. Dans notre passé, enfin, un seul prof, il ne peut pas tout faire. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire, des écoles primaires, de l'initiation, des stages, des choses qu'on ne peut pas réaliser à cause du manque de personnel et de moyens, parce qu'il n'est pas rémunéré. Il y a tout ça.
Il faut savoir que c'est une association qui marche qu'au bénévolat. Donc le problème, si jamais on doit accueillir des filles, ça fera beaucoup plus de monde. Et pourtant, c'est un désir réel parce que c'est vraiment très très important dans la cohésion sociale, surtout dans les quartiers où on est. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande différence entre les garçons et les filles, c'est-à-dire que les garçons et les filles, à part à l'école, ne se côtoient pas. N'est-ce pas, Karim? C'est vrai.
Non, oui, enfin, tout du moins à un certain âge, mais...
Ils se côtoient pas. Je dis pas le contraire. Hein, c'est rare que t'es avec 8 filles, puis tu sors avec elles,
puis
tu te balades dans le quartier avec elles, etc. C'est rare, à part si jamais on a une petite copine. Mais la plupart du temps, c'est deux clans complètement séparés. Hein, d'un côté les filles, d'un côté les garçons. Et le pire, c'est que maintenant, il commence à y avoir des phénomènes de bande, même chez les filles, avec leur chef, avec les mêmes comportements agressifs et aussi virils que les garçons. Donc, le fait de les intégrer dans une association, parce que la boxe aussi, c'est un sport très très spécial. Il y a une énorme solidarité entre les boxeurs. Hein. Quand une fille vient à l'entraînement comme un boxeur qui n'est pas doué, hein, tout le monde s'en occupe. Il y a une très très grande solidarité parce que c'est un sport très très dur.
Mais tu veux dire que spontanément, il y a des filles qui se sont présentées au club en disant, nous on aimerait boxer.
Bien sûr, elles attendent que je puisse organiser un stage spécifique rien que pour les filles. Mais malheureusement, tout est une question de temps. Hein, mais moi, je peux pas être tout le temps disponible. Il faut savoir qu'à chaque fois, je prends sur mes vacances.
Tu es le seul entraîneur, Kassem?
Je suis le seul entraîneur, mais l'année prochaine, j'ai deux boxeurs qui partent en stage de formation.
Parce que pour entraîner, il faut obligatoirement un diplôme, ce qu'on disait en...
Bien sûr. Même un diplôme fédéral au minimum. Mais il faut une certaine connaissance, une certaine pédagogie qu'on doit apprendre, qu'on doit assimiler. C'est pas parce qu'on est un sportif qu'on a pratiqué un sport qu'on saura l'apprendre.
Oui, la pédagogie, je crois que c'est quand même vraiment important dans ce domaine, parce qu'on a un petit peu parlé l'autre jour quand on a discuté pour préparer l'émission. C'est vrai que s'il ne suffit pas, ça se saurait de savoir boxer, même si tu as été super champion, pour faire passer l'envie et faire passer les bons gestes.
Il y a eu un boxeur, un champion, je ne sais plus comment il s'appelle, il a été refusé comme entraîneur. Je ne sais plus c'est qui.
C'est Hakim Kaffer, mais c'est pour d'autres raisons qu'il a été refusé, mais on peut voir ça comme...
Et comme appel, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais on ne sait jamais, parce qu'il y a un appel qu'on a lancé déjà au pouvoir public pour que vous ayez un petit peu plus de moyens, mais il y a un appel aussi, peut-être qu'il y a d'autres passionnés qui ne connaissent pas ce que vous faites, finalement, qui sont dans l'agglomération havraise ou qui sont ailleurs, parce que la radio est à m'écouter, a priori, même partout dans le monde, pour ceux qui veulent ou qui peuvent. Et on ne sait jamais, peut-être que des gens ont envie de venir vous rejoindre, de participer aux entraînements, de vous aider d'une manière ou d'une autre. On ne sait jamais.
Ça peut arriver.
Mais oui, mais oui. Et Juliette, d'ailleurs, en parlant de ça, tu parlais de pouvoir public, tu parlais d'associations, de petites structures. à l'ordre du jour, il y a quand même les médias en ont parlé ce matin aussi à la radio, on a beaucoup parlé des emplois jeunes et d'éducation, l'éducation nationale.
C'est vrai, j'avais un aparté à faire et ça n'en est pas vraiment un, hein, parce que ça rejoint quand même tout ce dont on parlait, notamment au niveau des jeunes, puisque ça concerne les emplois jeunes, de la pédagogie et oui, de comment le gouvernement se comporte. Alors en fait, je vous lis le texte qui m'a été donné par la coordination des emplois jeunes qui organise une manifestation le 14 juin à 17h. Le rendez-vous est à Franklin. Donc voilà, bientôt au terme de leur contrat de 5 ans, les aides éducateurs, qu'on appelle des emplois jeunes dans l'éducation nationale en tout cas, se posent de nombreuses questions quant à leur avenir. Après maintes promesses du gouvernement, ils sont sans réelle formation. Il faut savoir qu'on leur avait promis que c'est pas seulement 5 ans où ils étaient casés hors des statistiques du chômage, mais qu'on allait leur apprendre à faire quelque chose, donc comme dans beaucoup de domaines. Donc sans formation, sans validation d'acquis professionnels, etc. Donc ils réclament la création de postes qui correspondent à leurs activités professionnelles, ce qui est normal, un réel statut public, des droits réels, l'arrêt des emplois précaires, bon, ça c'est une chose qui ne concerne pas que les emplois jeunes, hein, pour en parler pour la société en général, mais bon. L'arrêt des emplois précaires au moment même où on parle de pérennisation des postes, mais pas des personnes. Alors, tous ceux qui ont écouté la radio ces derniers temps ont dû entendre qu'il y avait soi-disant des promesses du gouvernement, mais enfin, il n'y a rien de concret pour l'instant. Donc, la coordination appelle une manif le 14 juin, je vous le répète, à 17h à Franklin. Allez les rejoindre et puis nous aussi, on ira les rejoindre. Voilà, merci.
On ira tous. Et en attendant, on va passer sur, on va passer un morceau de YouTube qui s'appelle Until the End of the World.
Est-ce bien merci.
Quite a while.
Allez, vous avez tous reconnu U2, Until the End of the World. Ben on va redonner la parole à Pascal qui nous a parlé avec beaucoup de passion tout à l'heure de bande dessinée. Et là, je crois, Pascal, que tu souhaitais nous parler de Polar.
De Polar, tout à fait. Et puis, on va rentrer dans l'ambiance tout de suite.
Allez, c'est parti.
Avec un petit texte de Max Aube.
Excuse-moi.
Max Aube.
Max Aube, d'accord.
Aube, okay. A-U-B.
AUB.
Hein, c'est donc un texte qui est tiré des Crimes exemplaires qui est paru en Phébus, collection Libretto.
D'accord.
Et donc, comme j'ai mal aux dents un petit peu, je me suis permis de me venger. Alors, je commence. Je suis sûr qu'il se moquait de moi. Il riait de ce qu'il était, en train de me faire subir. C'en était trop. Il passait et repassait la fraise sur le nerf. Il le faisait exprès. Personne ne m'enlèvera cette idée de la tête. Il se moquait de moi. Même un enfant le supporterait. On ne vous a jamais enfoncé cette roulette du diable dans une molaire carillée. On devrait me féliciter. Je suis persuadé que maintenant ils feront un peu plus attention. J'ai peut-être serré un peu trop fort. Mais ce n'est pas ma faute s'il avait le cou un peu fragile. Et c'était juste à ma portée, si sûr de lui, si super, si content. Voilà, ceci dit, on va finir.
Ça a quand même un côté Marathon Man, Laurence Olivier, avec une scène avec Dustin Hoffman qui est absolument.
Oui, c'est bon. Ouais. Mémorable.
Mémorable.
Mémorable. Et très, très
sensible.
Parce qu'à chaque fois que je vais chez le dentiste, j'y pense, ça fait des jetons.
On va prendre là-dessus parce que là, c'est catastrophique.
Ah ouais, c'est normal.
Donc, tout ça pour vous parler d'un polar écrit par Midnight Walters. Et qui s'appelle Un serpent dans l'ombre, qui est paru aux éditions Stock. Et donc, Manuel Walters, qui faut bien le dire, est un des auteurs aussi, Camille et Juliette.
Ah, c'est un des auteurs préférés.
Hein ? Donc, Manuel Walters, c'est quelqu'un d'assez marrant, parce qu'en fait, elle met en liaison le roman énigme anglais et le roman noir américain, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, elle se sert du roman anime anglais avec un meurtre au départ, tout ça pour venir à un truc social, hein, beaucoup plus social que qu'il n'y paraît, comme pour revenir à un témoin du temps et de la société, comme faisaient des gens comme Chandler à une époque, Hamet, des gens comme ça, quoi. Donc ce qui fait que ça, c'est son 7e roman, et donc elle nous parle une fois de plus, comme elle a déjà fait par le passé, du racisme, effectivement aussi de la difficulté d'accepter certaines personnes, des références aussi à la violence au niveau des enfants et la répercussion que ça peut avoir par rapport après, de ce qu'ils peuvent faire après. Et donc c'est l'histoire d'un meurtre, on ne sait pas au départ si c'est un meurtre, mais il y a une noire qui est retrouvée dans un quartier de Londres, dans le sud-ouest de Londres, dans les années 70. Bon, c'est une soirée d'hiver et donc c'est en pleine grève, donc il y a des éboueurs font la grève, etc. Et cette noire est retrouvée dans ce quartier. Et tout le monde la déteste dans le quartier parce qu'elle a un problème, en fait. Déjà, une part est noire, bon, ce qui n'est pas évident.
Alors, ça n'est pas toujours.
Et puis en fait, elle a le syndrome de Tourette. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syndrome de Tourette, que je ne savais pas non plus avant de lire le bouquin, je vais vous lire un petit texte. Donc, les titres peuvent être moteurs ou vocaux, simples ou complexes. Parmi les symptômes complexes, on trouve les gestes saccadés, les sautillements, le fait de donner des coups, de marcher sur la pointe des pieds, de se parler à soi-même, le cri à tue-tête, la coprolalie, emploi le mot, une expression obscène ou choquante, sous l'effet de la tension, du stress, et les tics s'accentuent. Effectivement, cette pauvre dame dit tout le temps « sale blanc dans le quartier ». C'est-à-dire que les voisins sont pas très chanteurs avec elle, donc forcément, ça accentue les choses. Et en fait, cette femme est retrouvée morte, et le bouquin se situe en fait par rapport à un couple qui est dans une cabine dans le quartier, et une femme qui est Mrs. Lag, qui détonne un peu le quartier parce qu'elle est venue habiter récemment, et le quartier est un peu pauvre quand même. Il y a deux familles surtout qui sont vraiment abominables. Et cette femme va se sentir coupable quelque part de la mort qui s'est passée, et elle sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé normalement, donc elle va sentir qu'il y a un crime. Mais bon, tout va la faire capoter, et en fait tout va être caché. Et donc
elle va partir avec son mari parce qu'elle est d'oppression, donc son mari décide de partir et de bosser en Australie, etc. suite à cette affaire. Et 20 ans après, elle va revenir et essayer de démêler l'affaire, de régler les comptes, et ses comptes surtout.
D'accord.
Par rapport
d'accord.
à cette femme.
D'accord.
Donc,
c'est bien, c'est vrai, vide. Ouais.
Et en fait, on s'aperçoit que le bouquin s'appelle La Serpent dans l'ombre, parce que le problème effectivement du racisme est toujours présent. Et qu'il y a quelque chose, il est toujours quelque part présent dans les gens, que ce soit le racisme ou l'ignorance, le refus de l'indifférence.
Ce qui est quasiment la même chose finalement.
Ouais. Ouais. Et en fait, le bouquin repose là-dessus. Et au final, ce qui a en fait conduit la femme à continuer à se battre pendant 20 ans, à reprendre contact avec son père et à continuer à avoir des relations écrites avec les personnages qui ont intervenu dans l'affaire, essayer de démêler petit à petit les chevaux et comprendre pourquoi ça s'est passé. Et en fait, c'est parce qu'elle-même, quelque part, elle n'a pas suffisamment faire attention à la personne qui était à côté et pouvoir...
Vigilance et puis...
Vigilance et pouvoir essayer de comprendre qui elle était et... essayer de faire vraiment...
On est tous concernés par
ben voilà.
Ah oui, totalement, tout c'est tout actuel finalement, là, c'est très actuel, ce sont des sujets...
Ça remue vraiment les choses très profondément. Donc j'incite tout le monde à lire ceci, puisque c'est très très perturbant quelque part.
Perturbant, c'est ça, un livre doit
aller. Non, je pense que ça fait vraiment poser les bonnes questions, et c'est ça la force à Minel Walters, c'est qu'à chaque fois elle part sur une énigme, et qu'en fait elle revient toujours sur le social, et c'est vraiment très, très perturbant quelque part.
Bah écoute, la façon dont on parle, en tout cas, ça...
J'espère que vous avez fait plaisir.
Ouais.
Le dernier Minette Walters, Un serpent dans l'ombre.
Un serpent dans l'ombre.
Un serpent dans l'ombre. On va peut-être enchaîner avec... si on s'écoutait un petit morceau de Barbès, et puis on vient ensuite à la boxe, on finit avec nos deux champions de ce soir, Karim et Jérémy.
Oui.
C'est parti. We'll be right back. avez reconnu FFF, bien sûr, c'était Barbès. Eh bien, on va arriver à la fin, au terme de cette émission. Et à ce titre, on aimerait bien que Karim et Jérémy nous finissent et puis nous laissent le mot de la fin et puis nous parlent de la boxe encore avec leurs yeux tout ronds et tout brillants. Ça serait vraiment sympa. Donc, messieurs, je vous laisse la parole.
Bah, je crois que la boxe, on a pratiquement tout dit. La boxe éducative, on apprend à retenir nos coups, on apprend les techniques, comment boxer, respecter l'adversaire, comment dire aussi, on apprend à contrôler nos coups, on s'initie à la boxe.
Si tu devais définir la boxe en 3 mots, ce serait quoi?
Je sais pas, je pourrais pas la définir en 3 mots. Entraînement, combat, victoire.
Entraînement, combat, victoire. C'est excellent. Et Jérémy, à toi, en 3 mots, tu dirais quoi? Tu peux dire la même chose dans le désordre. Je te jure, on dira rien.
Je vois pas du tout ce que je pourrais dire.
En tout cas, c'est super sympa.
J'ai envie de dire.
On va dire le texte.
Sur la boxe, sur ce bouquin-là qui est vraiment bien. Alors attends, j'ai perdu la
page. C'est vrai que c'est un super écrivain.
Pendant que
Kassem cherche, moi je voudrais dire un truc par rapport au texte de Ingrid sur les emplois jeunes. C'est essentiel qu'on aille tous à la manif des emplois jeunes et que Jospin arrête de se foutre de notre gueule et de dire que le chômage baisse en France avec les CES, les CEC et les emplois jeunes.
Non, on n'applaudit pas dans les micros.
Là, je suis d'accord.
Voilà.
On dit oui, on est d'accord.
Un petit truc justement, que ça se rapproche un peu de ce que vient de dire Thierry. Alors, c'est Larry Holmes qui a été champion du monde des poids lourds. Il est pratiquement sorti invaincu quand il a pris sa retraite. Malheureusement, il est revenu, puis après il s'est fait exploser par Mike Tyson. Et lui, il disait, c'est dur d'être noir. Vous n'avez jamais été noir? Je l'étais autrefois, quand j'étais pauvre.
Ah,
et aussi, un petit mot de George Foreman, qui a été un des grands espoirs poids lourds, qui a été champion du monde, qui a battu Joe Frazier, et qui s'est fait battre par Mohamed Ali, justement, à Kinshasa, par Mohamed Ali, un grand combat organisé par Don King, et lui dit... Il a fini pasteur, George Foreman. Il est redevenu champion du monde à 45 ans.
Comme quoi la boxe, ça mène à tout.
Merci Dieu. Il dit comme ça,
la
boxe est le sport auquel aspirent tous les autres sports.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu, merci à tous.
Merci.
Et puis bon, on se retrouve dans 15 jours pour la dernière émission de la saison. Juliette.
Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Juliette et Bertrand, bonsoir. Merci de m'avoir
accueilli
ce soir.
De rien.
Merci, merci tout le monde.
Allez, à plus. Ciao.
Allez, les gars.
Ciao.
Bonsoir.
Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó por no saber. Atrevido.
Hey nana, comenzaré yo a relatarles ese historino de Haya. Leyenda que contaba chulo viejo de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Ja, ja, había una vez una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir de negro fango que lo gaba. Tramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaban, daba vigilando a la criolla de carnada.
Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido. Eso te pasó por no saber atrevido.
Y el punto se tiró de Gil a buscar a la guarida, vida. Pensó que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba.
¡Qué moño de tal manera!
Que esta historia es la candela. Te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere. Oíste hacer todo lo que ella pedía. El punto la complacía y escucha lo que le decía.
Todo lo que le pedía.
El punto se la gastaba.
Una linda habitación en el Toiba.
El punto se la gastaba.
Hay un vestido para él.
Hay un vestido para mí, para mí. El punto se la gastaba.
Sí, quería ir a la playa.
El punto.
te pasó por no saber que todo tiene su precio. Atrevido, eso te pasó. Atrevido, eso te pasó por no saber que todo tiene su precio. Atrevido, eso te pasó por no saber. Atrevido.
Pepe al chulo le toca, pone sus botas, rompe la puerta, tumba una copa. El ruido alarma, al vecindario pasa, muy a menudo aquí en mi barrio. Continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba todo lo que llama la atención. Busca a su chica, pura emoción, a los consortes bando, pues Pepe ya salió del fango.
Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar. Te creíste que eras vivo, que mi chica te ganaba. Señor.